des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, dans l'ombre de Ronald Reagan. Épisode 1, l'optimiste en chef. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui est celle d'un acteur, qui est devenu président des États-Unis. Mais on peut se demander s'il ne l'était pas déjà acteur avant même de travailler à Hollywood et s'il ne l'est pas resté jusqu'à sa mort le 5 juin 2004 à l'âge de 93 ans. Ne vous méprenez pas sur ce que je veux dire par là, il ne s'agit pas de soutenir que Ronald Reagan aurait, plus que tout un chacun, joué à être quelqu'un qu'il n'était pas, qu'il aurait menti sur sa personnalité profonde. Non, il s'agit plutôt de dire qu'il a cru que la politique, en même temps que la vie en général, pouvait être aussi simple qu'un scénario hollywoodien et se terminer par un happy end. Reagan a sans doute cru, avec une certaine naïveté, qu'un autre monde était possible, un monde où l'on pourrait interpréter le réel pour le rendre plus satisfaisant, plus conforme à un narratif jugé positif. Alors je sais, j'y ai pensé également, cela rappelle furieusement le concept assez en vogue de vérités alternatives ou de faits alternatifs, cette idée que les faits comptent finalement moins que les impressions qu'on en a, et ce parallèle entre l'ère Reagan et notre époque n'est pas le seul que l'on puisse faire, nous allons le voir. Car le paradigme politique et économique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, en même temps qu'une manière plutôt décomplexée de faire de la politique, eh bien, ce sont là deux aspects de son héritage qui font que nous vivons tous, plus ou moins, dans un monde pensé par Reagan. Mais qui pouvait donc bien être ce démiurge capable de changer la face du monde? Quel génie, quel bourreau de travail, quelle intelligence et quelle force de décision ont pu influencer à ce point notre destin depuis des décennies? Eh bien la réponse risque de vous étonner, car il semblerait que la vraie qualité de ce personnage était plutôt à chercher ailleurs. Reagan apparaissait surtout comme un être sympathique. Dans l'ombre de Ronald Reagan, une mini-série en deux épisodes de Salle des Archives, proposée par Mathieu Garrigou-Lagrange, Julie Béressy et Lily Cornaer.
Aux États-Unis, il y a une chose qu'un président n'a pas le droit de faire, c'est mentir, ou du moins de se faire prendre en flagrant délit de mensonge. C'est ce qui coûta son poste à Richard Nixon, c'était le Watergate. Et aujourd'hui, pour Ronald Reagan, la presse commence à parler d'Iron Gate. Alors pour tout comprendre, voici le résumé des épisodes précédents. Malgré une fermeté de façade, Reagan a été contraint de reconnaître, la semaine dernière, qu'il avait bien vendu des armes à l'Iran, en douce, pour libérer des otages. Hier, rebondissement, on apprenait que l'argent ainsi récolté, 30 millions de dollars, aurait servi à financer la guerre contre le Nicaragua. Résultat, les premiers fusibles ont sauté, le conseiller à la sécurité de Reagan, John Poindexter, et le lieutenant-colonel North ont été limogés. On leur fait pour le moment endosser toute la responsabilité. Mais même si le président américain a décidé aujourd'hui de créer une commission d'enquête sur ses propres services, il reste tout de même bien isolé face à une presse américaine qui n'a pas l'intention de le laisser filer comme ça.
Cette archive date du 26 octobre 1986. L'année précédente, l'administration Reagan avait mis sur pied un plan rocambolesque visant à libérer des otages américains détenus au Liban par le Hezbollah. Il s'agissait de faire en sorte qu'Israël vende des armes à l'Iran, lesquelles devaient ensuite être remplacées par les Américains, en échange de quoi l'Iran promettait de faire libérer les otages libanais. Sauf que rien évidemment ne se passe comme prévu et les Américains sont roulés dans la farine. Alors que le scandale commence à se répandre dans la presse, Reagan choisit d'abord de faire l'ingénu. Il plaide qu'il n'est au courant de rien. Mais les révélations s'enchaînent jusqu'à ce que, acculé, il finisse par avouer que l'administration américaine est bien à l'origine de ce fiasco. C'est alors qu'il écrit dans son journal intime ces mots pour le moins étranges. « Il y a quelques mois, j'ai dit au peuple américain que je n'avais pas échangé des armes contre des otages. Mon cœur et mes meilleures intentions me disent que cela est vrai, mais les faits et les preuves me disent le contraire. » Françoise Coste, vous êtes professeur à l'université Toulouse-Jean Jaurès et on vous doit une passionnante biographie de Reagan dans laquelle vous racontez justement cette anecdote de son journal intime au moment d'Iran Contra. Que nous disent pour vous ces quelques lignes?
Ces quelques lignes, elles résument très simplement toute la conception de la vie, de la politique de Reagan, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'être un animal politique, donc toute cette ce processus de vente clandestine à l'Irlande, en plus faire des fausses factures, récupérer l'argent supplémentaire pour l'envoyer aux contras en Nicaragua, c'est quand même un machiavélique. Donc c'est quelqu'un à la fois qui est capable de lancer des plans comme ça et de s'auto-convaincre qu'il n'est pas machiavélique ou cynique. Et la force de l'autoconviction est tellement forte qu'elle lui permet de convaincre ensuite le peuple que finalement, il n'est pas responsable. C'est cette sincérité plus forte que tout et qui a l'air tellement authentique, qui est troublante et qui fait que ben finalement, le peuple lui a pardonné. C'est la grande différence entre Nixon et lui. Nixon, ça se voyait que c'était un mauvais gars. Reagan, même quand il fait des actes de mauvais gars, il a toujours l'air sympa.
Donc il suffit d'être sincère finalement pour être pardonné et d'être un peu authentique.
Oui, la sincérité et l'authenticité, je crois qu'au-delà de l'idéologie, on y reviendra je suis sûr, c'est ça qui, sur le moment, a conquis le peuple américain et qui finalement, encore aujourd'hui, imprègne la mémoire collective que beaucoup d'Américains ont de Reagan.
Un autre trait de personnalité de Reagan, c'est son optimisme, un optimisme qui confine parfois même à la naïveté.
Mais c'est lié. C'est un optimisme et une naïveté sur l'état du monde et sur lui-même. Puisqu'il est foncièrement bon, il n'aurait jamais pu, se dit-il, faire quelque chose d'aussi moche que Iran-Contra. Donc, ça s'est fait malgré lui, ou sans qu'il comprenne tout, ou en tout cas, à la fin des fins, dans son journal et ensuite dans ses explications publiques sur le scandale, il reviendra toujours à sa motivation de départ, qu'il a aussi, et alors pour le coup, enfin ce n'est pas un mensonge, c'est tellement vrai, et c'est ça qui va toucher l'opinion publique aussi, sa motivation de départ, c'est que tout ça, au-delà des armes, des magouilles, des fausses factures, c'est parce qu'il y avait des Américains otages au Liban. Certains, par exemple, le chef de la CIA à Beyrouth à l'époque a été capturés par le Hezbollah, ils ont été torturés pendant des mois et des mois. Reagan a vu des images de ces séances de torture. Il en est malade. Et il a une réaction humaine de compassion, c'est-à-dire il faut ramener les otages à la maison. Et quel qu'en soit le prix. Et ça, c'est quelque part aussi, peut-être, vous l'avez dit en intro, son passé hollywoodien qui fait que la vie, c'est un film. Dans un film, on trouverait une solution pour aller récupérer les otages. Donc voilà, la solution, c'est ces grosses magouilles. Elles sont peut-être pas très jolies, mais ça partait d'un très bon sentiment. Et ça, il va l'expliquer à l'opinion publique qui va être touchée. Parce que beaucoup d'Américains vont se dire... Ben oui, finalement, le but, c'était ça, à la fin des fins.
Dans cette naïveté, dans ces bons sentiments, est-ce que vous pouvez y voir son éducation religieuse et sa mère qui était précisément dans cette idée que le Seigneur pouvait tout régler et qu'il fallait croire en son destin parce que le Seigneur veillait sur nous?
Oui, alors vous avez raison que sa mère, qui était protestante, plutôt évangélique, alors que son père était catholique, mais c'est sa mère qui a vraiment fait son éducation spirituelle. Et effectivement, c'était, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui chez beaucoup d'évangéliques américains, c'était une foi très simple, mais très bienveillante. Voilà, c'était pas la foi politisée, hargneuse, agressive, hostile qu'on voit chez certains aujourd'hui aux États-Unis. C'était une foi où il fallait être bon avec son prochain, il fallait être accueillant, généreux. Là aussi, on pourrait dire un aspect, une vision très simpliste, hein, pas du tout théologiquement complexe de la foi chrétienne, mais que des principes qui ont été pratiqués par très concrètement par la mère de Reagan dans sa vie quotidienne et qui ont fortement influencé son fils, oui.
On serait tenté de dire que le jeune Reagan est un bon garçon, un jeune homme dévoué et apprécié, un très bon camarade, toujours prêt à donner le coup de main, imprégné des idées catholiques de sa mère, pour qui le Seigneur possède donc toutes les réponses. Il est aussi un grand sportif, un maître nageur qui a sauvé des dizaines de personnes de la noyade. En somme, le fils est le voisin sympa et courageux que tout le monde aimerait avoir. Tout va bien donc dans l'enfance de Reagan, pas si sûr. Celle-ci a en effet été pauvre et son père souffrait d'alcoolisme. Mais si l'on se fie aux mémoires de l'ancien président, ces deux handicaps dans sa vie ne l'ont pas empêché d'être heureux, même quand il devait ramasser son paternel, ivre-mort, étendu dans la neige, et qu'il fallait ensuite le déshabiller et le mettre au lit. En entrant à l'université, le jeune Reagan se découvre une vocation pour le théâtre. Pourtant, il n'ose pas s'engager tout de suite dans cette voie. Hollywood et Broadway lui paraissent peut-être trop éloignés de la campagne où il est né, géographiquement comme culturellement, et il peine à s'imaginer un avenir dans de si hautes sphères. Un bon compromis pourrait être la radio, se dit-il. Et c'est ainsi qu'il se lance, au culot, en faisant de l'entrisme dans une station locale. Il devient alors journaliste, sportif et commentateur de matchs. Il faut dire qu'il a du talent. Derrière le micro, sa personnalité fait merveille, les auditeurs l'adorent et le succès ne fait que grandir durant les premières années de sa carrière. Puis c'est le temps du cinéma. Comme souvent avec lui, c'est de façon quasi miraculeuse que se fait son passage à Hollywood où il n'a aucun contact. Mais son physique de dieu grec, sa voix et son charisme inné font qu'il est embauché à la Warner en avril 1937, alors qu'il se rendait à Los Angeles pour exercer son métier de reporter sportif et qu'il en avait profité pour y faire, là encore, un petit peu d'entrisme. Le premier contrat qu'il signe avec ce studio n'est pas vraiment à son avantage, bien au contraire, mais toujours optimiste, c'est comme s'il ne s'en apercevait pas. Sur son nuage hollywoodien, il enchaîne les séries B et quelques films plus intéressants. En octobre 1937, il reçoit même une bonne critique pour son rôle de journaliste dans le film Love is on the Air.
Introducing your news commentator Andy McCain and his regular broadcast of Hot News with the courtesy of E.E. Nichols Department Store.
Hello again, folks. Here's something hot right off the griddle. George Copeland, who promised to start his war against the city's gambling syndicate today, has been missing from his home since yesterday morning. As yet, there hasn't been a single clue as to his whereabouts.
Françoise Coste, qu'est-ce que vous entendez dans cette voix du Reagan, acteur de 26 ans de Love is on the Air?
Eh bien, vous avez raison, le mot-clé, c'était charisme que vous avez utilisé. C'est-à-dire que, rien qu'à l'écouter déjà dans les années de ces années radio, on sent le charisme du personnage et il n'était pas si mauvais acteur que ça. Ça, c'est un mythe qu'il faut démanteler. C'est-à-dire que quand il est rentré en politique, beaucoup de ses critiques se sont moqués de lui. Parce qu'il n'avait pas fait de grandes écoles, parce qu'il n'avait pas fait de grandes études, c'était pas un avocat, il n'avait pas été dans la Ivy League, et puis... C'est vraiment venir d'Hollywood, c'était pas du tout crédible. Et puis, il a toujours eu cette étiquette d'acteur de série B. Et ça, c'est injuste. Parce que bon, c'est daté, l'archive, on l'entend, cette voix un peu nasillarde, tout ça. Mais dans les années 1930, c'était ça que le public voulait et il était très, très populaire. Et d'ailleurs, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est un acteur plutôt respecté.
Est-ce que ses rôles lui ressemblent? Là, en l'occurrence, il avait un rôle de journaliste radio, lui qui avait été journaliste sportif à la radio. C'est toujours des personnages de jeune homme au grand cœur, d'américain normal, entre guillemets.
Oui, mais c'est parce que son physique s'y prête. C'est-à-dire, vous avez dit un physique de dieu grec, c'est le beau mec américain sympa. Donc c'est sûr, c'est pas Robert De Niro, ça va pas être des rôles de composition. Il joue donc... ce qu'il est, donc un commentateur sportif. Il va aussi faire un de ses plus célèbres films où il joue un joueur de foot américain, parce que justement, il a joué au foot américain à la fac, et il est très costaud, très sportif. Il va faire du cheval toute sa vie, par exemple. Il va aussi jouer des militaires, par exemple dans un western plutôt pas mal sur la guerre de sécession, et il porte très bien l'uniforme. Voilà, donc c'est la masculinité américaine typique qu'il incarne parfaitement bien.
Entre 1939 et 1941, la carrière de Reagan au cinéma connaît une ascension fulgurante et il devient l'une des stars du studio Warner. Rien ne semble pouvoir arrêter ce jeune acteur et il est probable qu'il aurait continué à cheminer sur la route bien tracée de la gloire hollywoodienne si un événement à la portée immense ne s'était produit en 1941, l'attaque par l'aviation japonaise du port américain de Pearl Harbor. Reagan est mobilisé et s'il ne quittera jamais le sol de la Californie, il est obligé de mettre sa carrière entre parenthèses. Sa popularité reste néanmoins très grande et la Warner le met en scène, avec succès, dans ses habits de militaire. Mais malgré cela, une fois la guerre terminée, eh bien d'autres stars viennent le remplacer et sa carrière semble s'évanouir sous ses yeux. Françoise Coste, comment se fait-il que malgré cette grande popularité dont vous nous avez parlé, il voit sa carrière au cinéma s'étioler progressivement ?
Disons que les années, c'est une coïncidence chronologique. Les années de la Seconde Guerre mondiale, où, donc voilà, bien sûr, il va faire des films pour l'armée plutôt que pour les studios. C'était son pic, si vous voulez. Il avait la trentaine. C'était son pic de beauté, de charisme. À la fin de la guerre, eh ben voilà, il est déjà un peu plus vieux. Il a presque 40 ans. Il y a une nouvelle génération qui arrive, les James Dean et compagnie, donc des gens qui ont 15-20 ans de moins, et qui aussi ont une nouvelle conception du cinéma. Ça va devenir le cinéma des années 50 et 60. On va arriver vers la nouvelle vague, tout ça. Donc très vite, Reagan, il a l'air d'un dinosaure sur le plan artistique. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va pas s'apitoyer sur son sort. C'est toujours le même optimisme. Il va rebondir de deux façons qui sont assez captivantes. Une, c'est qu'il est, depuis le début, très impliqué dans le syndicat des acteurs. C'est-à-dire qu'il est, sur le plan humain, populaire, au sein même de la communauté hollywoodienne, parce que là aussi, mais voilà, il est sympa, il a plein d'amis, et donc il va très vite prendre la tête du syndicat des acteurs. Ça nous paraît anecdotique, le syndicat des acteurs, la SAG, ça s'appelle, ça existe encore d'ailleurs, mais en Californie et à Los Angeles, c'est un état dans l'état, le syndicat des acteurs. C'est eux qui font l'appui des beaux-temps, le beau temps dans les studios, qui sont un empire économique. Donc s'ils se mettent en grève, la machine hollywoodienne s'arrête. Donc, il prend la tête du syndicat des acteurs, sans avoir déjà à l'idée que ça va lui faire un tremplin pour la politique. Non, 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 c'est juste pour s'occuper, parce qu'il a beaucoup de temps libre à cause de cette carrière qui se ralentit fortement. Et deuxième façon de rebondir, qui est très moderne quand on regarde avec le recul, c'est qu'il se dit, ben, si je fais plus de films, c'est pas très grave, je peux faire de la télé. Et c'est un des premiers acteurs hollywoodiens qui, c'est bien avant Netflix ou Prime, hein, mais c'est un des premiers acteurs hollywoodiens établis, une première star, qui se dit, ben, c'est pas insultant de faire plutôt des choses pour la télé que pour le cinéma. Et il arrive à, donc il fait en particulier des westerns pour la télé, il arrive à bien gagner sa vie pour des chaînes de télévision.
Alors il y a quand même quelque chose qui nous paraît un petit peu étrange, c'est d'imaginer Reagan, le champion de la dérégulation en dirigeant syndical, et puis aussi le fait, ce que vous racontez dans votre biographie, qu'il commence finalement avec une idéologie rooseveltienne, plutôt de gauche, avant finalement de glisser vers le libéralisme, puis l'ultra, ce qu'on pourrait appeler l'ultralibéralisme. Comment vous expliquez ce mouvement ?
Alors vous avez raison d'insister que ses origines familiales très humbles, et puis le fait qu'il est né en 1911, donc il a pile 20 ans, quand il y a l'élection de Roosevelt, Franklin Roosevelt, le New Deal, la Grande Dépression. Donc il fait partie de cette génération de jeunes Américains qui arrivent, enfin qui commencent à voter. Je crois que la première fois qu'il a voté, c'est pour Franklin Roosevelt. Donc c'est qu'ils sont dans cette génération du New Deal, démocrate, plutôt de gauche, favorable à un État interventionniste, à des programmes sociaux généreux. D'ailleurs, il le dit lui-même, hein, justement parce que son père, qui a vivoté pendant toutes les années 30, qui a souvent été au chômage, son père a survécu grâce à l'aide sociale venant des programmes du New Deal. Donc l'État social, la famille Reagan, elle connaît. Et il arrive à Hollywood avec ces idées-là qui sont très répandues à l'époque. Hein. Il est par exemple ami avec le fils de Franklin Roosevelt, qui est un avocat d'affaires à Hollywood, très proche du syndicat des acteurs aussi. Donc c'est pour ça qu'il s'implique aussi dans le syndicat, qui est pas un syndicat, on va le voir justement, enfin radical, mais qui est un syndicat plutôt rooseveltien, proche des démocrates.
Alors qu'est-ce qui se passe comment change-t-il d'avis ?
Alors il va commencer à changer d'avis très vite après la Seconde Guerre mondiale, où justement enfin, c'est un lien, c'est l'histoire par la petite porte, mais à partir de 46-47, quand se met en place sur le globe la guerre froide, il va y avoir des petits ricochets à Hollywood, puisque justement vont émerger à Hollywood d'autres syndicats, des techniciens, en particulier des techniciens de plateau au sein des grands studios. Et ces techniciens sont affiliés au Parti communiste, où leurs syndicats sont en sous-main, pilotés par le Parti communiste américain, qui est certes minuscule, mais qui existe et qui essaye de trouver des points d'appui dans l'opinion, dans des institutions déjà existantes, pour un peu s'infiltrer dans le système. Et ça, Reagan, du haut du syndicat des acteurs, il va le voir, cette infiltration communiste. Il va voir ces tentatives de noyautage, y compris au sein de son propre syndicat. Et là, il va très vite dire non. On ne peut pas faire des syndicats des annexes de Moscou. Et c'est comme ça qu'il va basculer dans quelque chose qui ne s'était auquel il n'avait jamais réfléchi jusque-là, qui est le communisme, le danger communiste. Est-ce que le communisme, c'est compatible avec les valeurs américaines ? No way. Donc là, pas tout seul, justement avec le fils de Franklin Roosevelt, qui est toujours dans ses proches, ils vont, avec quelques leaders d'Hollywood, quelques leaders d'opinion, très vite identifier la menace communiste et s'organiser contre. Et c'est comme ça que petit à petit, à la fin des années 40, début des années 50, il va dériver vers la droite. Il va peu à peu quitter le Parti démocrate, se rapprocher des républicains.
Ironique donc cette accusation par le FBI d'être communiste, surtout si l'on pense que le cheval de bataille du futur président américain sera toute sa vie la lutte contre cette idéologie. Une lutte qui commence tôt d'ailleurs, comme le prouve ce spot de publicité de Radio Free Europe, retrouvé dans la salle des archives et qui remonte aux années 50.
My name is Ronald Reagan.
Je m'appelle Ronald Reagan. L'année dernière, 16 millions d'Américains ont participé à la croisade pour la liberté et à la création de la cloche de la liberté, symbole d'espoir pour les victimes du communisme en Europe de l'Est. La croisade pour la liberté est votre chance, et la mienne, d'aider à combattre le communisme. Rejoignez-nous en envoyant vos dons au général Clay. Croisade pour la liberté, Empire State Building, New York City ou à votre groupe local.
L'anticommunisme de Reagan est loin d'être passager. Au contraire, il s'agit de la boussole idéologique qui le guidera jusqu'à la fin de sa vie, même s'il appréciera beaucoup Mikhail Gorbatchev quand il le rencontrera bien des années plus tard. L'inverse n'était pas forcément vrai. Au sujet toujours de l'anticommunisme, faisons un petit saut en avant dans le temps pour montrer à quel point celui-ci sera constant. Écoutons ce papier d'un correspondant américain de l'ORTF durant les primaires républicaines à Dallas. Nous sommes en avril 1976.
Mr. Ford and Dr. Kissinger are wrong in their belief that Soviet ambitions have moderated so much that we no longer need to maintain military superiority.
C'est le thème favori de Reagan, qui accuse Ford et Kissinger d'avoir baissé les bras devant l'Union soviétique. À son avis, l'Amérique n'est plus qu'un super grand marchant avec une béquille. C'est un argument que Reagan a développé au Texas, avec un entêtement qui confine à l'obsession. Reste à savoir s'il a convaincu les Texans, les Américains les plus fiers du pays. Réponse demain.
Et la réponse des Texans a été non. Reagan n'a donc pas été désigné pour la présidentielle en 1976. Il lui faudra attendre 4 années de plus. De plus en plus marginalisé à Hollywood, où aucun rôle ne lui est proposé, Reagan accepte alors une mission étonnante. Il s'agit d'un emploi au sein du conglomérat General Electric. En plus de la présentation du film le dimanche soir sur un grand network national, son travail consiste à visiter toutes les usines du pays, de GE évidemment, et à y rencontrer les ouvriers afin de donner une bonne image de la direction de l'entreprise engagée alors dans un conflit d'image justement avec les syndicats. Rencontrer une star de cinéma est valorisant pour les employés, et comme la star en question a des idées morales et conservatrices très fortes, eh bien cela plaît beaucoup aux dirigeants de l'entreprise. Ainsi passe-t-il plusieurs années à parcourir l'Amérique pour rencontrer les nombreux employés de ce conglomérat au cours d'innombrables meetings. Il leur raconte ses fameuses anecdotes d'Hollywood, tout en introduisant au fur et à mesure de plus en plus de diatribes politiques. Et voyant que ce sont ces passages politiques qui sont les plus populaires, eh bien Reagan les multiplie et il finit par devenir davantage un tribun qu'une vedette du grand écran. C'est donc dans cette période, passée à sillonner le pays, que grandit son désir de faire gagner ses idées en devenant rien moins que gouverneur de Californie. Et il y parvient le 15 novembre 1966 à la faveur d'une vague républicaine.
On parle ici de coup de semonce. Comment interprète-t-on à New York ces résultats ?
Coup de semonce, c'est peut-être un peu exagéré. Le président Johnson s'attendait à ses pertes. Cela veut dire simplement que l'administration américaine va changer un peu l'orientation de sa politique, surtout dans le domaine de politique intérieure. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est de voir les personnalités qui se sont dégagées au cours de cette campagne électorale qui s'est terminée hier. En Californie, M. Reagan, l'acteur de télévision, bien connu, a été élu avec une forte majorité. On pensait que la lutte serait chaude avec le gouverneur Brown. Finalement, Reagan l'a emporté avec environ 56-57% des voix, ce qui est considérable. On parle aussi de Reagan comme d'un candidat possible de républicain pour la Maison-Blanche.
Françoise Coste, quelle réaction sur cette archive ? Et est-ce que vous pensez que finalement, il est élu sur un programme ou il est élu sur sa personnalité ?
Alors, un peu des deux, parce que il est pris de haut pendant cette campagne. Vous voyez, le journaliste le présente comme l'acteur de télévision. C'est très intéressant. Parce que justement, on ne voit que ça en lui. Dans la presse, en général. Et les démocrates face à lui, pensaient que ce serait facile de le battre tellement qu'il était, et c'est là qu'il était idiot. C'est ça l'idée. Jusqu'à dans les années 80, quand il est candidat à la présidence, ça va être la principale attaque des démocrates. C'est un acteur. Il est pas très intelligent. Il fera pas un bon élu. Bon. Donc, la preuve, année, qu'ils se sont trompés. Les Californiens ont choisi Reagan parce que bon, il est bon en campagne. Et aussi, à partir de la fin des années 60, justement, il y a une droitisation de l'opinion publique sur fond de guerre du Vietnam et surtout de la colère montante contre la guerre du Vietnam dans les campus américains avec les premiers grands mouvements étudiants contre la guerre du Vietnam qui vont aussi, à partir des années 65-66, donc justement à ce moment-là, être il va y aussi avoir chaque été en particulier dans les grandes villes américaines des émeutes raciales. Il y en a eu à Watts, à Los Angeles, en Californie justement en 65. Et donc l'opinion publique blanche est en train de paniquer face à ce qui ressemble à cette vague de désordre croissant. Et Reagan, lui, il fait campagne sur un retour à la loi et l'ordre, un peu comme Nixon le fera en 68 pour être élu président. Mais là, c'est la même chose au niveau local. Reagan, il promet de mater tous les émeutiers, tous les manifestants. Et ce discours dur commence à trouver un écho dans l'opinion publique.
Alors le problème, c'est que Reagan se rend compte en arrivant au siège de gouverneur qu'il n'aime pas tellement ce travail, que ça ne l'intéresse pas réellement, ça le déprime même au début, et il délègue d'une certaine façon la gestion de l'État à ses subordonnés, à ce qu'on a appelé le kitchen cabinet, si on veut résumer vraiment les choses à grands traits. Est-ce qu'on peut dire ça, Françoise Coste?
Oui, ce qui le peine et le chagrine beaucoup, c'est qu'il faut partir de Los Angeles et de Hollywood, parce que la capitale de la Californie, c'est à Sacramento, c'est loin. Donc il est coupé de son monde culturel habituel. Nancy, sa femme, qui, vous avez raison, a eu un rôle très important, s'ennuie ferme. Elle trouve que la mansion du gouverneur de Californie, elle est vieillotte, elle est poussiéreuse, elle est pas du tout glamour, elle est pas du tout Beverly Hills. Donc les Reagan s'ennuient, ils vont très vite, et d'ailleurs dans l'archive on l'entend tout de suite, qu'il est, on le voit en lui un futur présidentiable, donc c'est clair que la Californie c'est qu'une étape vers quelque chose de plus prestigieux. Et il met en place à Sacramento ce qui sera sa marque de fabrique à Washington, c'est-à-dire qu'effectivement c'est pas un chef les mains dans le cambouis. C'est pas un technocrate, il va pas lire ses dossiers, il va pas faire des brainstorming des heures avec ses conseillers. Il délègue beaucoup, il donne de grandes orientations, et puis il suppose que l'intendance suivra. Et finalement, ça marche pas si mal que ça.
Dès les premiers mois de son mandat de gouverneur de Californie, l'entourage de Reagan, son fameux kitchen cabinet, imagine de faire de lui le futur président des États-Unis. 8 ans plus tard, après ces 2 mandats, ils n'ont pas oublié cette idée et tentent de le mettre en orbite dans la course à la Maison-Blanche. Mais par maladresse ou par arrogance, les 3 premières tentatives de le faire élire se soldent par des échecs. Ce n'est qu'en 1980 que leur poulain, âgé tout de même de 69 ans, fera son entrée dans le bureau ovale. Il sera alors le plus âgé de tous les présidents américains. Mais la campagne qui lui permet cette victoire aura été pour le moins étrange, comme nous allons le voir dans l'épisode qui suit. Open up that golden gate, California, here I come. California.